Théologie mystique, le 5 mars 87, Rimont.
Laissez-moi tout se dire que si vous cherchez les alliances de l'Ancien, de l'Ancien Testament, c'est pas ça du tout, vous voyez. C'est pour ça que j'aimerais savoir, ça, si parmi vous, il y en a un qui fait une recherche là-dessus. Le père Congar a mis ça très, très en lumière. Mais est-ce que ça vient de Tübingen? Très souvent, les sources du père Congar, c'est Tübingen, n'est-ce pas? Müller. Alors, c'est presque toujours. Qu'il n'a rien inventé de nouveau, mais il a traduit. Alors ça a été quelque chose qui s'est communiqué plus. Mais c'est un peu bancal, parce que si vous prenez ce que dit une des préfaces, n'est-ce pas, et ce que dit le canon de la messe, les multiples alliances de l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous avez comme multiples alliances de l'Ancien Testament? Vous avez d'abord les pères. C'est la paternité. Vous avez ensuite le législateur, Moïse. Vous avez ensuite les juges. Alors, je peux mettre les juges et les médias et le législateur ensemble. Vous avez ensuite les prophètes. Et vous avez ensuite les rois. Donc, c'est pas trois. Et vous avez les prêtres. D'une façon importante, mais pas primordiale. Et je crois personnellement, moi, qu'on devrait reprendre beaucoup plus proche du texte de l'Écriture en théologie biblique. Et donc, on va prendre ces trois qui me semblent un peu schématiques, dignes de la scolastique décadente. C'est un peu schématique, parce que ça ne repose pas sur quelque chose de qui est montré directement dans l'Écriture. Vous avez, vous voyez, les pères, ça c'est très net, et ils sont trois pour bien caractériser les pères. L'alliance avec Abraham, c'est l'alliance avec la paternité. Ça ne peut pas nier. L'alliance avec Moïse, c'est le législateur. Moïse n'est pas prêtre. Moïse n'est pas roi. Moïse n'est pas prophète. C'est le législateur. Et Moïse, c'est quand même le médiateur. Au sens très très fort et très grand. La grandeur de Moïse, c'est paternité Moïse. C'est les deux aspects qui sont pour moi complémentaires et les plus forts. Vous savez, ensuite, à partir du législateur, vous aurez les juges et les prêtres. Puisque c'est à partir de Moïse qu'il y a le sacerdoce, Lévitique. Et après Moïse, vous avez les juges. Une période intermédiaire, les juges. Alors, est-ce que les juges disent quelque chose de particulier par rapport à Moïse? C'est une petite question intéressante à se poser. Puis vous avez ensuite les prophètes et les rois. Vous voyez, si vous mettez ça un peu en parallèle, parce que c'est important, c'est très important, parce qu'on reprend toujours ce chêne et on l'applique tout de go. Et le Saint-Père dans son encyclique, ça ne me gêne pas dans une encyclique. Hein. L'encyclique est faite pour que les théologiens réfléchissent. Et on ne fait pas une théologie à partir des encycliques. Non. Ça, il faut toujours se rappeler ça. Les encycliques précisent l'enseignement de l'Église. La théologie se reprend toujours à partir de l'Écriture. On renouvelle la théologie à partir de l'Écriture, pas à partir des encycliques. On fait une théologie pas très bonne à partir des encycliques. Pas parce que les encycliques sont pas bonnes, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais c'est parce que on ne remonte pas à la source. Or, c'est toujours en remontant à la source que les choses se découvrent. Vous voyez ? Alors, les encycliques, on en tient compte, c'est un lieu théologique. Et un lieu théologique important, puisque ce sont des précisions qu'on donne, et on doit y adhérer. très important de se rappeler ça. Et s'il y a des difficultés là-dessus, il faut les dire. Alors, je vais perdre pour essayer de comprendre. Parce que c'est dans la dernière semaine que nous allons trouver ça. Père législateur. La médiation paternelle. Tous seront bénis en Abraham. Et tous ceux qui béniront Abraham seront bénis de Dieu. Et tous ceux qui rejeteront Abraham seront maudits de Dieu. Donc c'est bien une médiation. Une médiation dans l'ordre de la fécondité à l'intérieur de la famille. Législateur, Moïse, c'est tout à fait autre chose. Et à partir de Moïse, alors, vous avez les Lévites.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous savez, qu'il y a trois médiations, l'ange, le prophète et les prêtres. Et l'auteur prend Moïse comme prototype du prophète.
Oui.
Et saint Thomas le souligne.
Oui. Vous voyez, il prend les anges, les prophètes et les prêtres.
Illumination,
sanctification. Oui, sanctification, ça c'est toute la grande. Et ça c'est dans la grande vision de la théologie.
La médiation du serviteur souffrant.
Le prophète serviteur. C'est le prophète qui le dit. Vous voyez ? Alors, serviteur, la royauté serviteur, est-ce que c'est la médiation ? Ce serait lié à la sagesse.
Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, elle médite comme Marie.
Oui, mais c'est une médiation très intérieure. Oui, il est évident que la sagesse, d'une certaine manière, joue un rôle de médiation, mais beaucoup moins officiel. C'est ce qui me semble. C'est pas institutionnalisé. Pas du tout. Vous voyez ? Serviteur et sagesse serait donc quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et c'est intéressant à noter du reste. Serviteur et sagesse. Parce que par les livres Sapientio, il y a quand même tout un aspect aussi de médiation. Mais d'une médiation interne, pas une médiation institutionnalisée. Il n'y a jamais eu un. Vous voyez, les juges étaient aussi des sages. Et pas institutionnalisé comme ça, j'étais comme juge. Bon, tout est-il que on peut très bien mettre ça, si ça me. Je mettrai alors en dernier lieu. On mettrait 7 ici. Chose privée, intérieure, serviteur et sagesse. Pour avoir le 7e. Bon. Je crois que.
On ne peut pas justifier par rapport à l'église épouse. Je pense aux trois chars de l'église, vous savez, les trois minéras. la charge de sanctifier, d'enseigner et de gouverner.
Oui, oui.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est...
Oui, oui, mais ça c'est...
C'est simple. On restreint par rapport à une optique précise,
oui.
Non pas. Parce que ce n'est pas si schématique que ça. Dernièrement, quand je le disais, pour vous le donner, une allocution de Saint-Père qui rappelait cette...
Je
ne sais pas quel propos.
Je ne dis pas que c'est schématique. Je le savais, mais je dis que de fait, ça a été une trilogie qu'on a repris comme ça habituellement et qu'on prend tout le temps.
On ne peut pas la prendre par rapport à l'Église qui continue l'œuvre du Christ avec ces trois.
Vous voyez, pour l'Église, vous avez le sacerdoce. Oui, mais il faut d'abord le comprendre dans le Christ. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, si, au point de vue théologique, je reviens toujours à l'Écriture. Parce que si vous prenez l'Église en disant, je le prends, les trois fonctions de l'Église, point de vue théologique, c'est pas un lieu suffisant. Je voudrais, c'est ça qui m'intéresserait, je voudrais, par rapport à l'Écriture, en reprenant l'Écriture, en regardant Saint Jean au terme, redécouvrir le fondement scripturaire de ça. Vous voyez ? Et le redécouvrir par rapport aux trois grandes fonctions du Christ, les trois grandes fonctions de l'Église, regardez, comme diverses alliances qui l'épouse. C'est vrai l'alliance, mais c'est le fruit de l'alliance, c'est pas la médiation, l'épouse. Tandis que le serviteur et le sage, c'est. Je crois pas qu'on peut mettre l'épouse comme médiation. C'est pas une médiation, c'est le fruit. Vous voyez, l'alliance doit être entre l'époux et l'épouse, le caractère de l'époux et l'épouse, mais tout doit donner ce fruit. Alors on pourrait mettre aussi serviteur, sage et épouse, pour le dire. Alors, je voudrais voir comment, dans le sacerdoce du Christ, et je crois que c'est bien ça que Jean va nous montrer, tout est repris par le sacerdoce. Mais à place d'être un sacerdoce religieux, comme le sacerdoce lévitique, comme nous l'avons déjà vu, c'est un sacerdoce d'amour et le sacerdoce du Fils. On va assumer le sacerdoce lévitique du sacrifice. On ne vient pas pour juger. Et cependant, le Père dit que c'est lui qui doit juger. C'est vrai que nous serons jugés par le Christ. Comme prêtre. Jésus comme prêtre et prophète. Jésus comme prêtre et roi. Et alors, comme prêtre, il est l'agneau serviteur. Et il nous donne la sagesse. Vous voyez ? C'est ça qui me semble être le propre de la découverte qu'on doit faire dans cette dernière semaine. Redécouvrir tout ce qui est avant, repris dans le cœur de Jésus. Si on arrive à faire ça, au point de vue théologique, c'est très important. Parce que ça montrerait au point de vue théologique, mystique, si vous voulez, très proche de la théologie biblique. Comme toujours, le fondement et la finalité sont toujours très proches. Ça montrerait d'abord l'intuition fondamentale de saint Thomas, à la différence de tous les théologiens de son époque. C'est que saint Thomas met en lumière d'une manière unique le sacerdoce du Christ. Et je crois que pour saint Thomas, la fonction royale du Christ dépend de son sacerdoce et la fonction prophétique dépend de son sacerdoce. Tout dépend du sacerdoce du Christ. C'est l'hypothèse un peu trop chère, si vous voulez. Alors, on a ces différents aspects, et comment tout. Parce que ça permettrait de faire une très grande synthèse, vous voyez, de tout ce qu'on voit comme préparation dans l'ancienne alliance par rapport à cette grande montée du Christ. Ou alors on découvre le sacerdoce dans une intériorité la plus grande qu'ils ont. sagesse. Mais réfléchissez, parce que je crois que ça nous aide à mieux saisir toute la richesse du sacerdoce du Christ. Et ça, le grand avantage, c'est que là, c'est directement l'Écriture qui nous y conduit. C'est quelque chose qui nous fait directement conduire. Alors, la seconde question, et ça revient à ce que vous dites, la seconde question, c'est de voir que le Christ fait un royaume de prêtres. L'Église. L'Église est un royaume de prêtres. Et l'Église est un royaume de prêtres parce qu'elle reçoit la grâce du Christ. La grâce de l'Église est une grâce sacerdotale. C'est sûr, c'est une grâce sacerdotale. C'est une grâce sacerdotale qui va donc avoir tous les privilèges du sacerdoce du Christ. Mais tous ces privilèges, à la place d'être unis, vont connaître une nouvelle division. Et nous avons alors dans l'Église les trois grandes fonctions. L'Église, le sacerdoce sacrement. Nous avons l'Église dans l'aspect de la juridiction. Et l'Église dans son enseignement. C'est bien ça que vous vouliez. Sacerdoce du Christ. Mais dans le Christ, c'est l'unité. Et dans l'Église, on retrouve alors cet aspect sacerdotal, juridiction et enseignement. L'aspect juridiction et sacerdotal sont très liés. L'enseignement est aussi très lié à l'aspect sacerdotal, le magistère. Et sacerdotale dans le Saint-Père. Oui. Donc là encore, on retrouve l'unité. Mais c'est pas la même chose. Alors, dans quelle mesure, voyez, poussons-nous, dans quelle mesure il faut essayer de découvrir ce que saint Thomas reprend à Aristote. Disposition. Comprenez bien, faites l'analogie. La propriété. Parce que c'est un grand devenir, le sommet du Christ. Et à partir du Christ, le haut plateau. Voyez, dans tout devenir, il y a toujours la disposition ex parte materiae. Dans la multiplicité. Tout est uni dans le sommet. Et puis ensuite, et la division de l'Église n'est pas la même que dans la disposition, forcément, puisque entre deux, il y a le mystère de Jésus. Oui. C'est ça que je crois qu'il faut essayer de penser et réfléchir. Parce que autrement, on met des petites pièces les unes à côté des autres et on ne voit pas le souffle de l'esprit qui implique une grande unité dans tout ça. Il y a une unité profonde dans toute la grande montée vers Jésus. Une fois que Jésus est là, il donne le sens à tout. Et il y a le rayonnement propriété. Donc réfléchissez à cela et nous allons essayer, nous, en reprenant la dernière semaine, de saisir les sacerdoce dans la pauvreté. Son sacerdoce est royal. Seconde note. Troisième note. À l'égard des Grecs. Et si on qualifiait tous les moments de la dernière semaine pour voir toutes les qualités du sacerdoce de Jésus et voir si toutes ces qualités reprennent tout. Et si, vous savez bien, si on n'a pas une hypothèse de recherche, on ne comprend rien. On n'a pas l'esprit éveillé. Donc il faut essayer là, de saisir ça. Surtout que là, c'est une hypothèse qui repose sur le donné. C'est pas une hypothèse n'importe laquelle. Elle repose sur toute la grande vision qui nous est donnée de l'Ancien Testament. Jésus qui reprend tout, et puis l'Église. Donc, on en était aux Grecs. Jésus leur répond en disant: elle est venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus prophétise là. Une prophétie dans un enseignement. C'est pour les Grecs. Il enseigne, c'est sûr, c'est un enseignement. Un enseignement pour enlever le scandale. Vous comprenez que ces Grecs venus à Jérusalem pour voir Jésus, parce qu'ils avaient entendu parler de lui, ils viennent pas à Jérusalem premièrement pour ça, ils viennent à Jérusalem pour vivre la fête de Pâques. Ils ont entendu parler de Jésus, ils désirent le voir. Si ensuite, ils apprennent que Jésus a été crucifié et qu'il est mort, ça risque de les scandaliser. Alors Jésus enlève le scandale. Mais chaque fois qu'on peut le faire, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas provoquer le scandale. On ne doit pas l'augmenter, le renchérir. On doit au contraire le diminuer. Parce que le scandale risque quelquefois, pour les personnes de foi faible, de faire que le scandale soit une pierre d'achoppement. Et à partir de cette pierre d'achoppement, tout est dégringolé. Donc on perd la foi. Et ça, c'est très intéressant de voir que Jésus le sait. Et donc il prévient. Et il prévient de cette manière-là. En enseignant d'une manière prophétique. Si le grain de blé fondé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, il se sert d'un enseignement à partir d'une expérience et il prophétise. Qui aime sa vie, la paix, qui est sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Donc nous découvrons là ce qui anime Jésus comme prêtre, les sentiments les plus profonds de son cœur. Il s'identifie au grain de blé, ça c'est sûr. S'identifier au grain de blé, c'est normal. Je suis le pain. Il est le pain. Et ici on voit que pour être le pain, il faut être le grain qui accepte d'être, de mourir dans la terre. Il y a une connexion, il y a un lien entre ces affirmations. Qui aime sa vie, la paix, qui est sa vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. enseignements prophétiques extrêmement riches, accompagnés d'une révélation mystérieuse du Père, avec le mystère de l'agonie et le mystère, d'une certaine manière, de la transfiguration. Oui, tout se trouve résumé là. C'est pour ça que c'est si dense. C'est pas n'importe quel enseignement. C'est un enseignement qui va être vécu par le Christ. Il va être vécu. Et cet enseignement vécu par le Christ se passe au plus intime de son cœur. Et c'est pour ça qu'il connaît l'angoisse de l'agonie, et qu'il connaît cette transfiguration par la présence du Père. Alors, ça ne nous intéresse pas directement ici, toutes les herméneutiques qui se font autour. Je saute le jugement de Jean sur le peuple d'Israël, parce que c'est pas ça qui nous intéresse directement. Mais c'est très important de voir que Jean, le théologien, ne juge pas l'attitude de son peuple. Il montre que ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Ça, c'est aussi très, très mystérieux et important à souligner. Jésus le fait aussi, hein, ça. Lorsque Jésus ne veut pas juger, il montre que ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Et de cette manière-là, il se retire. Alors il ne juge pas. Et c'est impressionnant. On peut se demander pourquoi il fait ça. Parce qu'il est plus que l'Écriture. Et il s'efface devant l'Écriture. Donc il y a là un grand mystère et qui fait, j'allais presque dire, comprendre les limites du sacerdoce de Jésus. Parce que le sacerdoce du Christ, quand il est dans l'âme de Jésus, a quelque chose d'infini. Mais l'exercice du sacerdoce est limité. Et c'est pour nous faire sans doute comprendre les limites de ce sacerdoce qui est limité, qu'on garde. Pour montrer les limites du sacerdoce que Jésus fait allusion à l'Écriture, je me demande, par rapport à nous, vous voyez, c'est pour nous montrer, pour se faire donner exemple, l'Écriture intervient pour montrer la mesure. On se fonde sur l'Écriture pour montrer cela. Alors, ce jugement du théologien qui se sert de l'Écriture pour montrer qu'il ne peut que rappeler la révélation. Nous avons ensuite le lavement des pieds, chapitre 13. C'est Jésus le législateur. C'est un geste de législateur, le lavement des pieds. Et c'est aussi un geste de pardon, et c'est aussi un geste prophétique. Et c'est un geste sacerdotal, en ce sens que ce législateur est prêtre. Vous voyez comme c'est tout est d'une certaine manière repris. C'est un geste de législateur, je crois qu'il faut voir successivement ces points de vue. Il y a un parallélisme entre Moïse au mont Sinaï et le chapitre 13 de l'institution de l'Eucharistie. Étant donné que l'Eucharistie s'inscrit entre les deux Pâques, l'ancienne et la nouvelle, pour montrer leur rupture et leur continuité. Et je crois que ce lavement des pieds nous fait comprendre la grandeur du pardon. Jésus poursuit, comme bon pasteur, la brebis égarée. C'est pour Judas qu'il réalise ce geste. C'est pour être seul avec Judas, au moins un instant, dans un geste où il pourra exprimer à Judas son amour et son pardon. De fait, Jean ne dit rien sur ce contact dernier de Jésus et de Judas. Il ne relève que l'attitude de Pierre. Alors c'est pour nous faire comprendre aussi, je crois, que l'autorité nouvelle du nouveau législateur va s'exercer d'une manière toute nouvelle par la pauvreté. C'est le législateur qui demande pardon pour apprendre aux autres à demander pardon. C'est toujours comme ça que fait Jésus. Jésus prend les initiatives, c'est lui qui nous a aimé le premier. Donc c'est lui qui fait le lavement des pieds pour apprendre aux disciples à demander pardon. Et c'est pour ça qu'il leur dit qu'il faut continuer ce geste. Ce geste doit être repris. Et Jésus montre là que ce législateur, plus grand que Moïse, ce législateur n'hésite pas de descendre plus bas que chacun des convives et de leur essuyer les pieds et de leur montrer son amour. Exercer l'autorité. C'est quelque chose de capital, n'est-ce pas, ce lavement des pieds, au point de vue liturgique et au point de vue Nouveau Testament, c'est-à-dire pour découvrir ce qu'est le sacerdoce de Jésus, où il fait le geste de l'esclave avant d'exercer son autorité. Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien. Et ce maître et ce seigneur fait le geste de l'esclave. Par amour. Et il montre bien quand Pierre demande pourquoi il fait ce geste. Jésus montre que ça montre bien l'autorité de Jésus. législateur qui institue à l'intérieur de sa famille religieuse quelque chose de tout à fait nouveau. Non, pas une loi nouvelle, c'est pas une loi, c'est un don. C'est un don d'amour. Et la loi nouvelle, c'est ce don d'amour qui se réalise par Jésus lui-même et par le don de son corps et de son sang. Donc, sacerdoce d'amour où la victime ne fait qu'un avec le prêtre. Ajoutons que selon l'évangile de Saint Jean et de Saint Luc, on peut dire que Judas est présent à cette institution d'Eucharistie. Jacob à la place de bénir Ésaü. C'est la même chose. du reste ce qu'il y a de si, si grand, et si impressionnant et si pauvre dans le sacerdoce, dans le prêtre qui distribue ça, l'Eucharistie. Bon, quand on distribue l'Eucharistie dans une communauté qu'on connaît, il n'y a pas la même pauvreté. Mais quand on distribue la Sainte Communion, hein, tous ceux qui se présentent, surtout aujourd'hui, où on a tellement facilité, et on a tellement dit que tous peuvent s'approcher du fait même s'ils assistent à la messe, que le prêtre peut être complice de ce laxisme que permet Dieu. Il est complice, vous comprenez bien, inconscient. Il ne va pas se mettre à faire la police en disant « Moi, je veux savoir quels sont ceux qui, dans cette paroisse, se... » Non. Il doit accepter. Ça, il y a quelque chose de très mystérieux dans ce don qui se fait Judas étant présent. Parce que ça montre que Jésus veut dépasser par le don l'aspect du législateur. C'est le don en définitive qui mesure tout. La toute-puissance du Père est au service de l'amour. Et la prière est entièrement au service du don. Et ça va jusqu'à ce fait que le don dépasse tout l'aspect